visage de l'église locale.
Chers amis de Radio Présence Pyrénées, bonjour. Au microphone, c'est Père Laurent de l'ensemble pastoral Notre-Dame de Coteaux. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble l'évangile qui nous est proposé pour le 16e dimanche du temps ordinaire, pour dimanche 19 juillet. Je veux vous faire la lecture brève de l'évangile en laissant à vos soins de lire vous-même l'entièreté du texte proposé pour ce dimanche-là. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens ont dormi, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu de blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit les pies, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur dit : C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent : Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? Il répond : Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : Enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, je vous rappelle aussi que pour ce dimanche, il faut lire aussi la première lecture et la deuxième lecture qui nous sont proposées pour bien saisir le message qui nous est transmis pour ce dimanche du mois de juillet. La première lecture de ce dimanche est extraite du livre de la Sagesse. L'auteur s'émerveille à la fois de la grandeur et de la tendresse de Dieu. Il dit que l'une explique l'autre. Si Dieu est indulgent avec l'homme, c'est précisément parce que son amour est tout-puissant. Vous avez entendu l'insistance de saint Paul sur le rôle de l'Esprit-Saint dans la deuxième lecture. Dans ce chapitre 8 de la lettre aux Romains, il le nomme 18 fois. À l'entendre, notre vie de baptisé se déroule tout entière sous l'influence de l'Esprit-Saint, à une condition, si nous nous laissons faire, évidemment. Aujourd'hui, comme nous pouvons le voir, notamment dans la deuxième lecture, il nous parle de la prière. L'Esprit guide notre prière pour nous faire entrer dans ce fameux projet de Dieu. Le texte d'aujourd'hui, chers amis, est très court, si vous l'avez regardé, si vous l'avez lu. Mais il met bien en valeur un rapprochement intéressant avec la première lecture et le texte de l'Évangile. D'une part, et c'est le dernier verset, c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles, dit Paul. Et d'autre part, il vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Si je comprends bien, prier comme il faut, c'est entrer dans la volonté de Dieu, vouloir ce que Dieu veut. C'est regarder le monde au sens large, bien sûr, mais aussi notre entourage proche, avec le regard de Dieu. Oui, chers amis, peut-être que le meilleur modèle pour notre prière, en définitive, c'est le Christ Jésus lui-même, puisqu'il était en permanence conduit par la force de l'Esprit Saint. Rappelons-nous que tout au long de sa vie terrestre, on peut voir à quel point sa prière et toutes ses paroles et ses gestes ont été sous le signe de l'accomplissement de la mission confiée par son Père. Les évangiles sont parsemés d'épisodes où il se montre à l'écoute de la volonté du Père. Et c'est là que nous pouvons rejoindre facilement, justement, l'évangile d'aujourd'hui. Extraite de son contexte, on pourrait penser que la parabole de l'ivraie est un début de réponse au problème de l'origine du mal. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé, tout comme ce n'est pas le maître des maisons qui a semé l'ivraie. Le récit de la création dans la Genèse y insistait déjà, Alors que les autres religions considéraient que les divinités avaient créé le mal autant que le bien, l'auteur, inspiré de la Genèse, affirmait que tout ce que Dieu a fait était très bon. Oui, chers amis, le Christ s'inscrit dans cette ligne, puisqu'il affirme que le maître de maison n'a semé que du bon grain. Mais si on replace la parabole de l'ivraie dans le contexte du chapitre 13 de saint Matthieu, on peut s'en rendre compte que peut-être le Christ parle aussi d'autre chose. Car elle suit immédiatement la parabole du semeur, l'explication que Jésus en donne. Rappelons-nous, la parabole du semeur que nous lisions dimanche dernier nous obligeait à admettre que les semailles ne sont pas forcément récompensées. Pour le dire autrement, l'annonce de la bonne nouvelle ne rencontre pas toujours l'oreille attentive et le cœur ouvert. La parabole de l'ivraie prend exactement la suite en posant la question. Si l'on peut identifier les causes de nos échecs dans la mission d'évangélisation, ne peut-on pas prendre des mesures tout de suite? Non. Jésus nous invite à accepter, comme notre condition de créature, ce mélange permanent du bien et du mal. Il vise peut-être ici la tentation de chacun de nous d'élitisme qui, malheureusement, se passe dans certaines communautés. La frontière qui sépare les bons des méchants passe en réalité en chacun de nous. Nous sommes tous des êtres partagés. Oui, nous sommes des êtres partagés. Quand Malachie oppose les humbles aux arrogants, quand les psaumes parlent des justes et des méchants, prenez le psaume numéro 1, quand Jésus oppose bon grain et l'ivraie, je crois que nous sommes tous concernés. Retenons-nous de montrer du doigt les autres en se disant que nous-mêmes, nous sommes les parfaits. Tous à la fois humbles et arrogants, justes et méchants, bon grain et livrés. Nous retrouvons exactement la même opposition dans la parabole du jugement dernier, également chez saint Matthieu au chapitre 25. À l'histoire de l'ivraie, Jésus ajoute deux autres petites paraboles que je vous laisse le soin tout simplement de lire dans la deuxième partie, très courte d'ailleurs, la graine de moutarde et le levain. Elles apparaissent comme un contrepoint aux deux dernières grandes paraboles précédentes qui décrivaient tous les obstacles à la croissance du royaume. Par là, le Christ nous invite à la confiance, à la patience et à l'humilité. Remarquez la fragilité des commencements, la petitesse de la graine ou du levain comparée à la taille du résultat. Alors, c'est comme si le Christ nous dit « patience ». Oui, chers amis, ce message de patience qui consonne si bien avec la première lecture nous suggère une nouvelle lecture de la parabole de l'ivraie. Si Dieu se montre ainsi patient, c'est peut-être parce qu'il ne faut pas risquer de perdre des bonnes gerbes en arrachant les mauvaises herbes. Et cela, je crois que tout bon jardinier connaît le risque. Alors, laissons cette parole du Seigneur habiter notre cœur au plus profondément de nous-mêmes. Et n'ayons pas peur, tout simplement, de nous laisser mener, tout simplement par le Christ Jésus et par la présence de l'Esprit. C'est justement cette présence mystérieuse dans notre vie qui va nous aider à grandir comme le blé dans le champ. Amen.
À la recherche de l'essentiel, Jean-Michel Castaing.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je vous parlerai aujourd'hui d'un aspect particulier de la grâce pascale. La grâce pascale nous délivre, et délivre le chrétien en général, de son appréhension envers son prochain, dans lequel il ne voit désormais plus une source de richesse ou de menace, mais dans lequel il voit un frère. Envoyé par Jésus pour annoncer aux disciples la nouvelle de sa résurrection, Marie-Madeleine ne leur dit pas « Le Seigneur est ressuscité », mais « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit ». Plutôt que d'employer une formule objective et distante, Marie-Madeleine exprime plutôt son expérience du matin de Pâques par une annonce personnelle où sont impliquées ses relations avec Jésus et les paroles échangées avec lui. D'ailleurs, ce procédé est courant dans l'évangile de Saint Jean, où les personnages ont des individualités saisissantes, mises en valeur par de longs dialogues avec lesquels ils s'entretiennent avec Jésus. On peut citer parmi les principaux dialogues celui de la Samaritaine, de l'aveugle né, de Marthe et de Marie de Béthanie. De son côté, le jour de Pâques, le ressuscité, Jésus, se fait reconnaître de Marie-Madeleine en l'appelant par son nom, Marie. Or, dans le judaïsme, le nom n'est pas une simple convention sociale, mais constitue la personne dans ce qu'elle a de plus essentiel. En appelant Madeleine par son nom, Jésus touche son intimité la plus profonde. C'est ainsi que la résurrection, chez Saint Jean, en plus de représenter un fait d'ordre théologique, constitue également un événement interpersonnel. Par ses apparitions pascales, Jésus ne se contente pas de prouver son pouvoir sur la mort et le péché, et par là sa divinité. Par ses apparitions, il manifeste également que ce qui lui tient à cœur, c'est d'entrer en relation avec chacun de nous de façon intime et spirituelle. Plus de 2000 ans après cet événement qui a coupé l'histoire de l'humanité en deux, c'est-à-dire la résurrection, les disciples de Jésus peuvent témoigner de ce mystère en adoptant la même attitude que leur maître, c'est-à-dire en entrant à leur tour en relation avec le semblable, et cela sans peur ni préjugé. Telle est une des grâces à demander à Dieu durant le temps pascal, mais plus largement le dimanche, jour où nous fêtons la résurrection, et aussi tous les jours. Trop souvent, nous restons repliés sur nous-mêmes. L'individualisme qui gangrène nos sociétés n'épargne pas les chrétiens, en les rendant parfois frileux, voire méfiants. Or, en triomphant de la mort, Jésus nous a rendus libres, libres de la peur et des mauvais réflexes concurrentiels. En nous appropriant la grâce pascale, nous voilà prêts à aller à la rencontre de nos frères et sœurs. Car chaque homme recèle en lui plus de richesses que toutes celles que recèlent nos supermarchés. Le Christ a vaincu la malédiction de la discorde et de la méfiance, de la jalousie et au final de l'atomisation. Car le Christ est notre intimité, une intimité qui ouvre, une intimité immense dans laquelle nous sommes séparés de personne depuis l'origine jusqu'à la fin du monde, à travers les temps et l'éternité et les continents. Désormais, le signe de la résurrection n'est plus le tombeau vide, mais notre désir d'aller vers les autres, de rechercher notre bonheur à les servir, ou tout simplement d'être avec eux, gratuitement, de partager un bon repas, comme le fait le ressuscité au bord du lac, au chapitre 21 de l'évangile de Jean. Depuis la résurrection, nous ne sommes plus à côté les uns des autres, mais ensemble. L'Église, communauté des hommes réconciliés entre eux et avec Dieu, est donc bien le fruit de Pâques.
Les visages de l'Église locale.